avec sa maman Claudia dans le twist précédent. Il voulait plus d'autonomie, plus de liberté, mais ses parents n'avaient pas tellement confiance en lui et le géolocalisaient en permanence. Eh bien, sachez que Twist devrait être remboursé par les assurances, car ça va beaucoup mieux au sein de la famille. Claudia nous a laissé un vocal. Je ne vous en dis pas plus, évidemment. Rendez-vous en fin d'épisode.
Salut, c'est Grégoire. Comme toutes les deux semaines, vous me retrouvez pour un débat un peu particulier, un débat plein de défis, de coups fourrés, mais un débat qui vise l'harmonie, la fête, plutôt que le mal de tête. Aujourd'hui, une médecin conventionnelle et un naturopathe débattent de soins. Vous qui écoutez cet épisode, si vous avez mal à la tête, vous êtes plutôt team médicaments ou médecine douce, hein, médecine douce, naturopathie, acupuncture, homéopathie, fleurs de Bach. Si vous êtes adepte de la médecine douce, on dit aussi médecine naturelle, vous n'êtes pas seul. En 2022, près d'un tiers de la population suisse de plus de 15 ans avait eu recours à au moins une consultation de médecine complémentaire au cours des 12 derniers mois. Ça, c'est un chiffre de l'Office fédéral de la statistique. Mais les thérapies complémentaires, c'est un peu une jungle. On y trouve un large éventail de propositions de traitement, peut-être plus ou moins fiable. En tant que patient, patiente, comment s'y retrouver? Comment mieux soigner? C'est le débat du twist.
Non, je ne suis pas d'accord.
Le point J.
Mais vous avez tout à fait raison.
Moi, c'est Grégoire Moll, en pleine forme pour animer cet épisode, même sans médoc.
Parlez pour vous, Grégoire, hein, parce que tous ceux et celles qui écoutent ce podcast ont besoin d'un truc contre la migraine quand vous donnez les consignes ou quand vous posez des questions trop longues ou encore
quand vos sirènes retentissent, la régie, en général, c'est que vous n'êtes pas contente de la tournure que prend le débat et qu'il y a urgence à le recentrer. S'il vous plaît, prenez soin de nos deux invités à qui on souhaite la bienvenue. À ma gauche, elle est psychiatre et psychothérapeute formée à la médecine académique. Pour elle, c'est important que les patientes et les patients aient le choix dans l'offre de soins. Mais elle le dit, tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon et puis ça a ses limites.
Pour un certain nombre de maladies graves, de troubles comme le cancer par exemple ou certaines maladies infectieuses, je pense que la médecine conventionnelle a beaucoup plus à apporter que les thérapies complémentaires.
Pendant ce débat, cette psychiatre se montrera-t-elle opiniâtre ? Bonjour Catherine Léchère.
Bonjour.
À ma droite, un naturopathe nutritionniste. Pour lui, on ne peut pas guérir un patient sans le comprendre. Et la naturopathie prend le temps de comprendre la patientèle, selon lui. Il veut plus de liens avec la médecine conventionnelle, même si pour lui, ces deux médecines n'ont pas les mêmes préoccupations.
La médecine conventionnelle, elle, s'occupe de la maladie. Alors que d'ordre général, la médecine naturelle, elle s'occupe de la santé. Donc on n'est pas sur le même chapitre du livre, on va dire.
On espère que ce débat ne tournera pas au roman noir. Bonjour Joël Robert.
Bonjour.
Première question rapide. Catherine Léchère, vous êtes psychiatre, psychothérapeute, vous êtes formée à la médecine académique, on dit aussi médecine conventionnelle, et dans la revue Doc, vous vous interrogez sur l'attrait qu'ont les médecines complémentaires et vous alertez, puisque vous l'écrivez, ces professions ne sont pas réglementées. Mm-hmm. La médecine conventionnelle, elle est davantage cadrée, ça c'est un plus pour les patients-patientes?
Je ne sais pas si c'est un plus, en tout cas c'est très réglementé, on est dans un cursus très formaté, on suit tous le même cursus pendant 6 ans, donc à la fin ce cursus est sanctionné par un diplôme. Oui, je pense que c'est quand même un gage de... Enfin, c'est très réglementé et les installations en cabinet sont contrôlées aussi, il ne peut pas ouvrir un cabinet de médecin qui veut.
Joël Robert, vous pratiquez la médecine intégrative, donc vous n'êtes pas en opposition contre la médecine conventionnelle, mais vous êtes d'abord formé en tant que naturopathe et nutritionniste. À côté de quoi, la médecine conventionnelle passe-t-elle parfois, selon vous?
En sachant qu'une la moyenne chez un docteur pour une séance pour un patient est de 20 minutes, pour moi c'est très compliqué d'avoir l'historique du patient et qu'est-ce qui a fait qu'il en arrive ici. Jung et Freud le disaient il y a 100 ans, qu'en fait, pour guérir un patient, pour aider un patient à guérir, il faut le comprendre.
Et nous, au Twist, c'est nos auditrices et auditeurs qu'on aimerait aider en leur donnant quelques clés pour réfléchir sur les thérapies complémentaires. Et pour ça, on a sollicité une troisième personne.
Les patients disent pas assez souvent à leurs médecins qu'ils ont recours à des thérapies complémentaires et les médecins posent pas assez la question. Et là, ça crée un certain nombre de risques.
Pierre-Yves Rodondi est directeur de l'Institut de médecine de famille à l'Université de Fribourg et spécialiste des médecines complémentaires. D'ailleurs, il a dirigé le Centre de médecine intégrative active et complémentaire du CHUV de 2015 à 2018. On l'entendra par moments dans cet épisode pour nous apporter du contexte. Il nous donnera notamment des conseils pour estimer si on peut faire confiance à tel ou tel thérapeute en médecine complémentaire. Ça, ce sera un peu plus tard dans cet épisode. Pour le moment, c'est l'heure du premier défi entre Catherine Lécher et Joël Robert. Le défi, on se connaît ? Je vais vous poser une question par rapport à la personne avec qui vous débattez. Vous répondez et l'autre dira si vous avez vu juste. Catherine Lécher. Joël Robert a un diplôme de naturopathe et de nutritionniste. À votre avis, combien de temps lui a-t-il fallu pour obtenir l'ensemble de ses deux diplômes ? Lui a-t-il fallu 10 ans, 4 ans, 6 jours ?
4 ans ?
Et c'est la bonne réponse. Et puis peut-être préciser, Joël Robert, vous êtes praticien en médecine intégrative. Donc vous alliez un peu les deux. Vous alliez la médecine naturelle douce avec des traitements de médecine conventionnelle.
Exactement. En fait, à la suite de mes 4 années d'études de naturopathie, j'avais déjà un cabinet et je me sentais pas super légitime lorsque je prescrivais parce qu'il y a beaucoup de remèdes avec beaucoup d'indications thérapeutiques similaires. Et c'est là où il y a un peu un flou et c'est là où je comprends la médecine conventionnelle qui regarde la médecine naturelle et qui se dit mais qu'est-ce que vous faites? Et moi, ça me suffisait pas, donc j'ai continué à me former 4 ans supplémentaires en médecine intégrative avec un suivi avec un docteur pour justement faire ce pont entre la médecine conventionnelle et la médecine naturelle.
Catherine Lécher, vous êtes psychiatre, psychothérapeute, votre pratique c'est d'écouter vos patients, de discuter avec eux, mais ça vous arrive de prescrire des médicaments. On va demander à Joël Robert à quelle fréquence est-ce que ça vous arrive. Est-ce que Catherine Lécher prescrit des médicaments globalement 3 fois par an, 3 fois par mois, toutes les semaines?
Toutes les semaines.
Et c'est la bonne réponse, toutes les semaines. Catherine Lécher, c'est quoi les médicaments que vous prescrivez en général? C'est des anxiolytiques, des antidépresseurs, ça?
Alors des anxiolytiques, j'en prescris très peu. Parce que en fait, ils sont pas dénués d'effets secondaires, et surtout de risques de dépendance. Donc, on essaie vraiment de trouver des alternatives. Après, oui, des antidépresseurs, d'autres médicaments contre la psychose ou des stabilisateurs de l'humeur. Enfin, il y a toutes sortes de médicaments qu'on peut prescrire. Après, la prescription de médicaments, c'est vraiment quelque chose qu'on fait de manière très soigneuse. C'est pas, on se dit, ah bah tiens, sur un coin de table, je vous fais vite une ordonnance. C'est vraiment souvent la prescription, enfin une première prescription se fait au terme d'un entretien ou de 2 entretiens parce que on va donner la possibilité à la personne de réfléchir, est-ce que vraiment c'est la bonne solution, parce qu'il y a toujours des effets secondaires, donc on doit toujours s'assurer du risque, enfin de la balance risque-bénéfice pour savoir si on va pas faire du mal à notre patient. Le but étant de lui faire le plus de bien possible.
Je pense qu'on peut aller très loin avec la médecine naturelle, et comme je disais avant, il faut savoir aussi nos limites et savoir à quel moment il faut passer la main. Par exemple, les antidépresseurs, où on sait qu'ils sont quand même souvent prescrits en médecine naturelle. Par exemple, moi, j'ai un bilan d'analyse qui s'appelle les bilans neurotransmetteurs pour voir les dosages des hormones cérébrales, donc des neurotransmetteurs, et voir où est-ce que le patient est en est. Et en fait, par exemple, pour la sérotonine, il y a le millepertuis, etc., etc., qui peut avoir des effets vraiment bénéfiques.
Les bilans d'analyse, c'est-à-dire que c'est les laboratoires qui vous donnent des bilans d'analyse de...
Alors moi, je travaille spécifiquement avec 2 laboratoires où en fait, je fais des prises de sang ou des prises d'urine à mes patients pour comprendre où est-ce qu'ils en sont au niveau de leur santé.
À ma connaissance, c'est pas des méthodes qui sont validées scientifiquement. On n'a pas de moyens, il me semble, à l'heure actuelle, en tout cas dans tous les services psychiatriques, c'est pas utilisé. On dose pas la sérotonine dans le sang. Parce que l'hypothèse, c'est que, par exemple, pour une dépression, c'est une hypothèse qui manque de la sérotonine dans l'espace entre les neurones. On sait que les antidépresseurs agissent là-dessus, mais on n'est pas à 100% sûr. Et ce qui se passe dans le corps, c'est pas forcément le reflet de ce qui se passe dans le cerveau. Donc, c'est des méthodes qui sont très utilisées en naturopathie, peut-être à bon escient, mais c'est pas des méthodes qui sont validées scientifiquement par la communauté officielle.
Joël Robert.
Ce qui est intéressant dans le milieu de la santé, c'est qu'un patient arrive avec un état de santé, qu'il y a une certaine pratique au niveau de la thérapeutique, et puis que le patient ressort, soit il va mieux, soit il va moins bien. Et c'est là où je pense que c'est important de définir la science. Et moi, sur tous mes patients qui ont fait ces différents tests au niveau des neurotransmetteurs, il y a quand même eu des résultats à la fin. Mais effectivement, il faut aussi différencier les choses. Si le patient nécessite aller voir un psychiatre, alors là, moi, mon rôle, c'est de déléguer.
Mais je m'excuse, j'aimerais encore compléter parce que c'est vraiment intéressant ce que vous dites, parce que je crois que les traitements antidépresseurs sont, parce qu'on parle de ça, hein, mais ils sont indiqués dans les cas où il y a une dépression clinique sévère. Dans toutes les dépressions légères ou moyennes, en fait, toutes les études montrent qu'il n'y a pas de bénéfice en fait à prescrire un antidépresseur par rapport à prescrire autre chose.
Ah, prescrire ou ne pas prescrire des médicaments. Et si on prend des médicaments et qu'on voit aussi un thérapeute en médecine naturelle, comment s'assurer que ce que les différents traitements qu'on prend ne rentre pas en conflit, qu'il n'y a pas de mauvaise interaction entre eux? Qu'en pense Pierre-Yves Rodondi?
Un élément auquel il faut faire attention quand un thérapeute complémentaire nous propose un traitement, c'est lorsqu'il y a des substances à ingérer, si que ce soit des compléments alimentaires, que ce soit de la phytothérapie, des oligoéléments ou autres. Là, il faut rester prudent. Certains thérapeutes complémentaires connaissent très bien les risques d'interaction, mais d'autres ne les connaissent pas bien. Et dans ce cas, soit le médecin traitant, soit le pharmacien peut renseigner le patient afin d'éviter d'avoir des interactions qui pourraient être négatives.
Les thérapies complémentaires, ça peut être difficile de s'y retrouver. Certaines sont remboursées par l'assurance de base, d'autres pas. Les règles qui les encadrent dépendent en grande partie des cantons. En tant que patiente-patient, comment s'y repérer? Comment estimer si je peux faire confiance à ma ou mon thérapeute complémentaire? J'ai demandé à Pierre-Yves Rodondi.
Un des signes les plus simples qu'on propose, c'est un thérapeute qui ne rejette pas en bloc les autres thérapies, notamment les médecines conventionnelles. Par exemple, un thérapeute qui dirait il faut arrêter la prednisone, mais il faut arrêter la chimiothérapie. Il faut vraiment là se poser des questions et en parler avec son médecin traitant.
On a un peu parlé de formation lors du premier défi. Joël Robert s'est donc formé pendant 4 ans pour être naturopathe et nutritionniste et il complète cela d'une formation en médecine intégrée. Dans le monde des thérapies complémentaires, les formations, ça varie. C'est ce que nous dit Pierre-Yves Rodondi.
La formation des thérapeutes complémentaires peut être très variable. Certains thérapeutes peuvent faire des week-ends pour apprendre leur thérapie et puis d'autres vont faire plusieurs milliers d'heures de formation. Donc c'est là qu'on a une certaine discrépance de type de formation, de qualité de formation. On a effectivement certaines thérapies pour lesquelles les formations sont très certainement trop courtes et c'est par le fait justement qu'il n'y a pas vraiment de régulation pour certaines thérapies actuellement. C'est très difficile pour les patients de savoir quelle durée notre thérapeute s'est formé. Donc, un élément qui peut aider, c'est que le fait que le thérapeute soit reconnu et remboursé par une assurance maladie complémentaire, dans la grande majorité des cas, ces assurances ont fait les contrôles nécessaires de la durée de formation. Donc, en Suisse, du moment que c'est remboursé, on a une assez bonne sécurité en termes de qualité de formation.
Pour nos deux invités, renforcer l'intégration des médecines naturelles dans la formation académique des médecins et dans la formation continue des praticiens et praticiennes est une bonne idée.
Oui, tout à fait.
Ah oui, oui, tout à fait. C'est ce que je suis allé chercher dans ma formation en médecine intégrée d'ailleurs.
Nos invités convergent sur ce point. Est-ce qu'ils seront toujours sur la même longueur d'onde lors du prochain défi ? Le défi remède de grand-mère. Je vous donne des idées de trucs à faire qui sont censés aider à aller mieux. Je vous donne devant vous trois petites feuilles de papier, une feuille bonne idée, une feuille mauvaise idée et une feuille ça fait pas de mal mais pas vraiment de bien non plus. Donc je vais vous donner des idées de remèdes de grand-mère et à chaque fois donc, vous allez brandir ce que vous pensez donc de ce remède. Si je vous dis se baigner dans l'eau froide pour renforcer son système immunitaire. Attention, 1, 2, 3. Alors, bonne idée pour Catherine Léchère. Et ça fait pas de mal, mais pas vraiment de bien non plus pour vous, Joël Robert. Catherine Léchère, c'est bénéfique, vraiment, se baigner dans l'eau froide?
Je pense pas qu'il y a de preuves scientifiques, mais moi, j'aime bien l'idée.
Donc, vous le faites aussi?
Oui, ça m'arrive.
Voilà.
ça aide. Donc, voilà.
Ça aide pour vous, de façon empirique.
Voilà, ça m'aide.
Boire du sirop d'oignon contre la toux. 1, 2, 3, brandissez. Pas de mal, mais pas vraiment de bien non plus. Ok, très bien, vous êtes les deux d'accord là-dessus.
Ne le faites
je pense
pas
que
chez
pour
vous.
La laine.
Ouais,
mauvaise idée.
Peut-être. Se faire un cataplasme de pommes de terre et d'ail contre le mal de tête.
Ou une soupe.
1, 2, 3. Pas de mal et pas de bien.
L'ail, Joël Robert, ça a des vertus
Oui. Alors, pour la flore intestinale, c'est bon. Hein.
Qu'est-ce qu'on sait sur l'efficacité de ces soins naturels?
Pour la baignade en eau froide, Mathieu Sobad, médecin du sport au CHUV et à Unisanté, indiquait l'an dernier sur RTS Première que, d'après la science, un faisceau de preuves pourrait montrer qu'il y a des bienfaits, mais surtout subjectifs. Certaines personnes se sentent plus énergiques, moins fatiguées, mais on voit moins d'effets sur des paramètres objectifs comme des prises de sang. Concernant le cataplasme de pommes de terre et d'ail, la pharmacienne Joëlle Ourier indiquait en 2019 dans l'émission de la RTS 36.9 que le cataplasme de pommes de terre peut avoir un effet rafraîchissant et que la teinture d'ail a un effet anti-inflammatoire, mais plus connu pour les problèmes articulaires que pour les migraines. Quant au sirop d'oignon, la chroniqueuse et anthropologue médicale Teresa Graydon écrit dans le Seattle Times l'an dernier qu'il n'a pas été très étudié en tant que médicament contre la toux. Son efficacité en la matière ne semble donc pas prouvée. Est-ce qu'il faudrait que la science se penche davantage sur ce qu'on appelle les remèdes de grand-mère, que des études évaluent ce qui marche et ce qui ne marche pas ?
Ça pourrait être intéressant. Après, je pense qu'on doit, chaque professionnel de la santé, chaque chercheur doit choisir ses combats. C'est-à-dire qu'on a quand même encore beaucoup de domaines dans lesquels la médecine a ses limites. Il y a des maladies qu'on ne sait pas soigner. Donc je pense que c'est vraiment important de pouvoir mettre aussi les ressources là où elles sont vraiment nécessaires.
Je pense que ces remèdes de grand-mère, historiquement, ont lieu d'être. Parce qu'en fait, si on est tous ici, c'est parce que nos ancêtres ont réussi à se soigner d'une manière ou d'une autre. Maintenant, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Comme je le disais avant, c'est important que le patient qu'il comprenne où il en est au niveau de sa santé et quels sont ses besoins spécifiques. Si le patient a des migraines chroniques depuis plusieurs années, je pense qu'il faut faire autre chose que des remèdes de grand-mère.
Alors, vous parliez de migraines, on va parler plutôt maux de tête avec le prochain défi pour lequel je vous invite à être dans un esprit tout à fait collaboratif. Le Ninon Ninon édition spéciale santé. On vous propose une variation du défi Ninon Ninon. On va vous faire écouter le témoignage de Jordan qui a souffert de maux de tête. Chacun votre tour, vous allez formuler des propositions pour avancer dans le diagnostic et proposer peut-être des pistes de traitement. L'autre doit accepter à chaque fois votre proposition et ajouter la sienne pour avancer dans le parcours jusqu'à ce qu'une proposition soit rejetée par l'une ou l'un de vous. On écoute Jordan.
J'ai commencé à avoir mal à la tête en automne 2019. Des maux de tête qui passaient pas, malgré l'ibuprofène, du paracétamol, parfois la combinaison des deux en même temps. Rien à faire, ça passait pas.
Des maux de tête qui ne passent pas, malgré paracétamol, ibuprofène. Catherine Lescher, vous êtes psychiatre, voilà, mais vous êtes formée à la médecine conventionnelle. Là, on parle d'un cas, c'est évidemment pas des recommandations à appliquer directement chez vous. Mais voilà, vous avez ce retour d'une patiente. Par quoi est-ce que vous pourriez commencer ?
Alors, je ne sais pas si cette dame a déjà consulté son médecin pour lui parler de ses maux de tête.
Donc, consulter son médecin généraliste ?
Oui.
Consulter son médecin généraliste ?
Oui, et aller voir son médecin et en même temps faire attention au ibuprofène et au paracétamol qui, à long terme, sont hépatotoxiques.
Oui, effectivement. Pour n'importe quelle prescription médicamenteuse, je pense qu'il faut que ces prescriptions-là soient faites en collaboration avec le médecin, quand bien même certains médicaments sont en vente libre.
Et quoi d'autre alors maintenant? Elle a vu son médecin généraliste. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour calmer ses maux de tête? Elle a fait des examens qui ont un peu exclu des choses graves.
D'accord, super.
Mais par contre, les maux de tête continuent.
Les maux de tête continuent. On peut lui demander ce qu'elle a comme activité, si elle souffre de stress, voir quels sont les facteurs extérieurs qui pourraient générer du stress.
Oui, en fait, je pense que c'est important de faire une anamnèse, de comprendre qu'est-ce qui l'améliore, qu'est-ce qui l'empire, depuis quand, à quel moment de la journée, etc., etc.
Faire une anamnèse, c'est-à-dire demander au patient de raconter l'histoire de sa maladie, ses antécédents médicaux.
Oui, bien sûr. Et puis, voir quel est son contexte de vie. C'est une femme, elle a quel âge? Est-ce qu'elle a des enfants bas âge? Est-ce qu'elle a une charge mentale élevée? Il y a beaucoup de choses qui peuvent s'exprimer par des maux de tête.
Alors c'est une femme qui a environ la quarantaine d'années, qui a des enfants.
Mm-hmm. Donc on peut, peut-être qu'on peut lui proposer une psychothérapie.
Une psychothérapie?
Oui.
Alors, juste avant de parler de psychothérapie, vous êtes d'accord Joël, Robert? Je vous propose qu'on écoute la suite de son témoignage.
J'ai fait plusieurs séances de psychothérapie et d'hypnose. Et si ça a amélioré les maux de tête, pendant un petit moment, ils sont revenus assez rapidement.
Si ça a allégé le problème mais que ça ne l'a pas soigné, c'est que les médecins qui l'ont suivi n'ont pas trouvé la source. Et donc, il faut aller continuer, il faut persévérer sur la compréhension de ces problèmes. en fait, que ce soit hormonal, lipidique, immunitaire, etc. Ça peut être aussi ostéo-articulaire, faut explorer différentes pistes.
Oui, tout à fait. Non, puis, alors, plusieurs séances, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. Un traitement en psychothérapie, ça peut durer plusieurs mois. Puis l'hypnose, ben, ça fonctionne très très bien, mais des fois aussi, jusqu'à ce que l'inconscient ait trouvé la source du problème, ben, ça prend un peu de temps.
Donc, persévérer.
Oui.
Persévérer là-dedans, c'est aussi ce que vous persévérez avec la psychothérapie et l'hypnose, même si les maux de tête reviennent. Joël Robert, vous êtes d'accord avec ça?
Si ça lui a fait du bien, oui.
9 points d'accord.
Et puis alors, ajoutez votre autre chose pour...
Alors moi c'est simple, tous mes patients passent par mes kits d'analyse, même si scientifiquement on peut en discuter. Et voilà, des gens qui ont eu des maux de tête, il y a plusieurs sources en fait. C'est ça qui rend complexe les maux de tête. Ça peut être digestif, ça peut être cardiovasculaire, ça peut être ostéo-articulaire, etc., etc.
Donc vous préconiseriez le kit d'analyse?
Ah oui, comme je fais à tous mes patients.
Catherine Lechef, c'est d'accord ça, le kit d'analyse?
Je veux dire, on peut le faire.
Je ne sais pas ce que ça va.
Bah, non, je ne le recommanderais pas, mais ça peut apporter quelque chose, peut-être. J'en sais rien. Il y a des choses que la médecine connaît, il y a des choses que la médecine ne connaît pas.
Donc vous le recommanderiez pas sur un parcours combiné, disons que si. Vous...
A priori pas, mais ce n'est pas moi la professionnelle de ces bilans-là.
Et je pense qu'on va s'arrêter là pour le ninon-ninon. On va dire que c'est la fin de la collaboration entre vos deux professions. Ceux qui d'analyse, là, vous pouvez pas. Disons que vous seriez pas opposé, hein, pour clarifier, vous seriez pas opposé, mais disons que vous le recommanderiez pas. C'est pas quelque chose avec laquelle vous seriez à l'aise de recommander. Vous êtes arrivé à 9 points d'accord. On va maintenant écouter la fin du témoignage de Jordan. Elle a trouvé une solution qui semble convenir. Et c'est une thérapeute en médecine intégrative qui lui a suggéré le remède.
Ma médecin m'a proposé de porter une gouttière la nuit. Ce que je fais depuis 4-5 mois, c'est une gouttière en plastique qui est pas personnalisée, on la trouve dans le commerce. Et là, miracle, je me réveille sans tension dans la nuque, donc les céphalées ne se développent pas et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins mal à la tête.
Je pense qu'il faut préciser, hein, que c'est une solution qui convient à cette patiente-là, c'est pas forcément la solution qui peut convenir à tout le monde si vous avez des maux de tête récurrents.
C'est quoi ce truc magique de la gouttière?
Ça vous parle, Catherine Lechère, vous avez...
Oui, oui, très bien. Oui.
Comment ça fonctionne?
En fait, c'est simplement qu'il y a trop de tension au niveau de la mâchoire, hein, et puis que ça s'appelle des céphalées de tension, c'est-à-dire que tous les muscles sont reliés, si vous voulez. Les muscles tiennent les os les uns avec les autres, et puis s'ils sont contractés tout le temps, ça crée des douleurs.
Vous, Joël Robert, est-ce que vous aviez soupçonné cette possibilité de la gouttière comme traitement quand vous avez entendu le témoignage de Jordan, ou ça vous était pas venu à l'esprit pour le jeu?
Oui, bah, je suis moi-même passé par cette thérapie.
Par la gouttière.
Ouais. Par la gouttière.
Avant de conclure cet épisode, sachez, les auditrices et auditeurs du Twist, que nous avons eu des nouvelles des derniers participants, Alex et sa maman Claudia. Ils avaient débattu de comment améliorer la confiance entre eux et l'autonomie d'Alex et avaient trouvé plusieurs points d'accord. Eh bien, ils ont commencé à les mettre en pratique.
Et bonjour Grégoire, on a commencé très mal le lendemain de l'émission, donc il a pris son vélo et il pleuvait. Et il dit qu'il pleuvait pas, mais non, il pleuvait. Mais après, on a fait beaucoup de progrès. Donc, un des points qu'on a amélioré, donc, il nous avait demandé de refaire un contrat par rapport à son argent de poche et les notes, parce que les gymnases, c'est plus dur. Donc, on l'a fait, on l'a signé, ça, c'est bon. Et aussi, on lui a donné la permission et on a payé l'abonnement pour faire la gym. Et ça, c'est bon. Et il a fait aussi vraiment son planning d'études. Donc, jour par jour avec qu'est-ce qu'il doit étudier par jour, et il l'est fait, donc ça c'est exceptionnellement bien. Merci beaucoup de votre aide, parce que même si ça a mal commencé, là je vois un vrai vrai changement de la part d'Alex et je suis super contente.
C'est aussi ça, Twist, des solutions concrètes. Alors si vous aussi vous avez des situations que le Twist pourrait aider à démêler, écrivez-nous ou envoyez-nous un vocal sur WhatsApp au 079 134 34 70. Catherine Lechère, psychiatre psychothérapeute formée à la médecine académique. Joël Robert, naturopathe, nutritionniste et thérapeute en médecine intégrative. Merci à tous les deux d'avoir participé au Twist.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci aussi à Célia Perrin pour son aide sur cet épisode. Et bien sûr, merci à vous qui écoutez ce podcast. Le Point J revient ici même mardi après le lundi férié. Quant au Twist, on revient avec un nouvel épisode vendredi 3 octobre. À bientôt.